Emmanuel Macron en VRP de l'atome cet après-midi, avec un conseil national nucléaire en Normandie et une visite du chantier de la centrale de Penly. Deux réacteurs EPR y seront construits, une priorité pour le chef de l'État, sur fond de guerre au Moyen-Orient et de dérèglement climatique.
Parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas à gagner la bataille du climat, de la compétitivité et de la souveraineté sans le nucléaire.
La France, dont 68,1% de l'électricité provient de l'atome, contre 23,5% en Europe, a accueilli mardi la deuxième édition du rendez-vous international sur l'énergie atomique. Un militant de Greenpeace a bien tenté de se faire entendre.
Le nucléaire, c'est la fin.
Mais c'est l'intervention de la présidente de la Commission européenne qui a marqué les esprits. L'ex-ministre d'Angela Merkel, qui a acté la sortie du nucléaire de l'Allemagne, finalisée en 2023, a opéré une volte-face.
Avec le recul, on peut dire que l'Europe a commis une erreur stratégique en tournant le dos à une source d'énergie fiable, abordable et à faibles émissions.
Un mea culpa qui peut surprendre bientôt 40 ans après la catastrophe de Tchernobyl et 15 ans après celle de Fukushima, deux tragédies qui ont réactivé la peur. Le traumatisme serait-il dépassé ? L'atome semble avoir opéré un retour en grâce au nom de l'urgence climatique. Même chez les écologistes, la sortie du nucléaire n'est plus forcément un totem. Yannick Jadot dénonce néanmoins une obsession française déraisonnable.
Miser l'essentiel de notre avenir énergétique sur une seule technologie, c'est quand même jouer à la roulette russe, et je ne dis pas ça parce que Poutine contrôle largement une partie de notre uranium naturel importé et de notre uranium enrichi.
Alors la souveraineté énergétique passe-t-elle par le nucléaire, au risque de se retrouver dépendant de l'uranium russe ? L'atome apporte-t-il plus de solutions ou de questions, comme le sort des déchets radioactifs ?
C'est une tendance mondiale, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui.
Ah oui, absolument. Non seulement, alors d'abord la confirmation du choix nucléaire, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est surtout dans l'Union européenne que le déclin avait été avéré, un déclin politique hein, avant tout. Et puis il y a une dynamique extrêmement forte qui se fait jour aussi bien dans les pays occidentaux dits développés, le Japon. On va peut-être en parler, les États-Unis, les autres pays européens qui tous reviennent très fortement dans le nucléaire, mais aussi tous les pays asiatiques, Chine, l'Inde, Afrique du Sud. Les pays africains insufflent une dynamique très forte avec beaucoup de rationalité, beaucoup de pragmatisme vis-à-vis du nucléaire. Ils ont la volonté, eux aussi, de pouvoir bénéficier d'un réseau électrique bas carbone, et qui soit suffisamment d'envergure pour soutenir le bien-être de leur population.
La réalité aujourd'hui, quand même, à l'échelle de la planète, c'est que le nucléaire n'a jamais été aussi faible dans la production d'électricité que maintenant. C'est 9% de la production d'électricité mondiale, c'est le chiffre le plus bas depuis 40 ans. Donc on peut se dire qu'il y a un retour en grâce du nucléaire, on peut se le dire, on peut se faire croire toutes et tout ça, mais la réalité n'est pas celle-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'entends triplement des capacités nucléaires d'ici 2050, 2050, c'est dans moins de 25 ans, sachant qu'il faut entre 15 et 17 ans pour construire un réacteur nucléaire, qu'aujourd'hui, les investisseurs financiers privés prêts à investir dans le nucléaire sont de plus en plus rares, d'où le fameux sommet où Emmanuel Macron joue les super ambassadeurs pour aller chercher des financements pour construire des centrales. C'est-à-dire, où on va trouver l'argent, où on va les construire ces centrales pour tripler les capacités d'ici 2050, je n'en ai aucune idée. Et quant aux chiffres, y compris au Japon, dès lors qu'on va commencer à poser la question sérieusement de « est-ce que vous êtes prêt à avoir une centrale nucléaire à côté de chez vous ?», je suis sûr que l'acceptation sociale, comme on dit, de la construction des centrales va être très différente. Donc aujourd'hui, on entend effectivement des responsables politiques dire que le nucléaire fait son retour en grâce. Pour l'instant, les chiffres démontre ça, et moi je n'ai pas vu encore l'ombre du démarrage de ça.
Le contexte géopolitique montre la dépendance par rapport aux hydrocarbures et montre que depuis le temps qu'on parle de transition énergétique, en fait on ne l'a pas réalisé. C'est-à-dire que par exemple en France, on reste à plus de 60% de la consommation énergétique qui est assurée par l'importation d'hydrocarbures, c'est 58 milliards d'euros par an effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que le rapport Pisani-Ferry disait qu'il fallait trouver à peu près 60 milliards d'euros par an pour financer la transition écologique. Et quand on fait le rapport, on se dit, là, il y a quelque chose qui devrait être de l'ordre du vase communicant. Mais par rapport à ce que vous dites, je crois qu'il faut rappeler une chose,
c'est l'Ukraine et maintenant l'Iran. Donc,
ne plus dépendre des hydrocarbures, c'est pas seulement se précipiter sur le nucléaire, c'est évidemment relancer la production nucléaire lorsqu'on est déjà assez bien doté. Je voudrais insister sur une chose, c'est que vous parlez de l'Afrique, il y a aujourd'hui une seule centrale nucléaire en Afrique du Sud. Il y a des velléités, mais encore faudrait-il maîtriser la technologie. Ce qui est important sur le nucléaire, c'est qu'il faut à la fois avoir le minerai, l'uranium, et la question de la technologie est un deuxième point. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir à la fois le minerai? Là, c'est un problème pour les pays européens qui n'ont pas d'uranium. Certains pays africains en ont et n'ont pas la technologie. Avec qui vont-ils construire des centrales nucléaires? Sans doute avec la Chine. Et il y a un point qui me semble essentiel, c'est que si on veut sortir de la dépendance, il faut aussi faire du renouvelable. Alors, je ne dis pas ça parce que je suis ni, oui, oui. Je dis ça parce que c'est tout simplement une nécessité. Il faut à tout prix concilier renouvelable et nucléaire. Pourquoi? Parce que, comme ça a été rappelé par Jean-François Julliard, lorsqu'on construit un réacteur, une centrale nucléaire, ça met très longtemps.
Donc vous êtes vous, énergie nucléaire.
Ouais, je suis
en même temps.
Parce que je suis aussi pour la sobriété. C'est-à-dire que je pense que la question des économies d'énergie est un sujet fondamental qui, de longue date, a été prévu à l'échelle européenne. Et je dirais que si je dois faire une hiérarchie entre les je dirais sobriété, ENR et nucléaire.
Les opinions publiques sont très allantes et poussent très fortement dans ce sens-là. Mais c'est plutôt un retour à l'évidence, en fait. On ne parle pas d'une vision ou d'un espoir. Là, on a 40 ans de parc nucléaire français dont on commence à reconnaître les éléments, la réalité des faits, de ce qui est, l'efficacité de ce qui a été démontré. Donc on ne fait que reconnaître un état de fait et acter le fait, à contrario, que 30 ans de politique énergétique où on a raconté une histoire, on a dit qu'on allait décarboner, c'est pas ce qu'on a fait. On a cherché à remplacer l'énergie la plus bas carbone qui est le nucléaire par d'autres énergies bas carbone qui étaient les renouvelables plutôt que de s'attaquer aux fossiles. Donc on a menti, il faut le dire. On a menti et ça s'est relativement bien passé parce qu'en France, on avait un socle nucléaire qu'on a su maintenir et qu'on était des pays prospères. Mais quand on est confronté à la réalité et au contexte géopolitique et international, bah forcément, forcé de reconnaître ce qui marche et ce qui ne marche pas.
On va évoquer.
Dire que dans ce cas-là, on est allé un peu trop loin et trop vite dans la position allemande, que finalement c'était un peu trop radical, un peu trop manichéen.
Mais enfin, je comprends, on est sur Arte, on parle de la France et de l'Allemagne, mais il faut arrêter d'opposer les deux modèles en permanence sur cette question-là. C'est-à-dire, c'est pas l'un ou l'autre. Nous, on n'a jamais dit qu'il fallait viser le modèle allemand. Le modèle allemand, il pose d'infinis problèmes aussi. La décision de sortir du nucléaire de l'Allemagne en 2011, moi, je la comprends, je l'entends. Il faut aussi se replacer dans le contexte de cette époque-là. Mais la grande erreur de l'Allemagne a été de ne pas travailler sur la sortie du charbon et sur la sortie des énergies fossiles.
Ils ont ouvert des usines.
Exactement. Et on se retrouve effectivement aujourd'hui avec un mix électrique, et c'est moi qui vais le dire, comme ça, ça va aller plus vite, un mix électrique qui est plus émetteur de gaz à effet de serre en Allemagne qu'en France. Et c'est une réalité, personne ne conteste ça. Donc je ne dis pas du tout qu'il faut viser le modèle allemand. En revanche, viser un autre modèle que personne n'a encore inventé, je crois que c'est sérieusement possible et souhaitable.
Et vous l'avez inventé, vous, ce modèle?
Non, mais d'autres...
Vous pouvez le conceptualiser, ce modèle?
RTE l'a inventé, l'ADEME l'a inventé. RTE, filiale d'EDF, l'a inventé, l'ADEME l'a inventé. Donc arrêtons de croire que c'est une lubie d'écolos qui ne sont pas sérieux. Ce modèle 100%, laissez-moi terminer, ce modèle 100% renouvelable, il existe. RTE, qui est un organisme sérieux, vous ne pouvez pas les accuser d'être des idéologues, des idéologistes de l'écologie. Ils ont fait plusieurs scénarios, il y en a 6, Futur électrique 2050, qui vont de 100% nucléaire à 100% renouvelable. Tous ces scénarios ont leur point de force, leur point de faiblesse et tout ça. Mais technologiquement, tout ça est possible. Ce que je veux dire, c'est que c'est un choix de société avant tout. C'est pas un choix technologique aujourd'hui. On sait qu'on peut travailler sur un scénario 100% renouvelable à l'horizon 2050, qu'on peut aller dans cette direction-là. C'est pas une impasse technologique. Aujourd'hui, c'est un choix de société. Et moi, c'est vrai que pour la société dans laquelle je vis et le monde dans lequel je vis aussi, dès qu'on dézoome un peu de la France, j'ai plutôt envie de vivre avec des sites de production d'énergie renouvelable à côté de chez moi que des centrales nucléaire un peu partout. Voilà. Et je rappelle que dans le contexte du moment avec la guerre qui s'étend, il faut aussi se poser la question de la vulnérabilité des centrales nucléaires face au conflit qui s'étend. Il y a une centrale nucléaire en Iran qui est à portée de missiles américains. Il y a une centrale nucléaire aux Émirats arabes unis qui est à portée de...
En Ukraine,
à portée de frappe russe.
Oui, non, pour l'Allemagne et la France, qui est le fait qu'il n'y a pas eu vraiment de construction d'un modèle européen énergétique, pour répondre à la question d'Elisabeth Quint, et que en fait, fait, entre le modèle allemand et le modèle français, il y a très peu de choses en commun, et que lorsqu'Ursula von der Leyen dit, fait une ouverture sur le nucléaire, ce qui surprend parce qu'elle est allemande, c'est qu'en fait, elle dit d'une certaine manière, est-ce qu'on pourrait faire converger les modèles différents vers une politique européenne commune. Et pourquoi est-ce que... Moi, je voudrais insister sur un point sur l'Allemagne, c'est que le refus du nucléaire, qui a été extrêmement fort en 2011 par rapport à Fukushima, est aussi lié à un refus du nucléaire militaire. Là, on parle de militaire civil, mais la question du parapluie nucléaire américain, la question de... On envisage le nucléaire globalement, c'est une chose qui concerne la France, parce qu'en France, on a été habitué à penser à la dissuasion nucléaire, et du coup, on a moins peur du nucléaire civil. Lorsqu'on est allemand et qu'on est beaucoup plus au contact de la Russie, on a peur du nucléaire en général, parce qu'on est sur un territoire plus, plus sensible, plus vulnérable. Ça me semble être un point important. Et pour terminer là-dessus, je pense que ce qui est essentiel, c'est que Angela Merkel, lorsqu'elle renonce au nucléaire, elle n'est pas anti-nucléaire, en fait. Elle fait face avec pragmatisme à un mouvement de la société allemande qui est un mouvement puissant, avec sondages, qui sont des sondages où très majoritairement tous les Allemands veulent sortir du nucléaire. Donc c'est une position pragmatique qui peut expliquer qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est de son camp, de la CDU-CSU, est aussi une position pragmatique, Friedrich Merz, en disant ben, on peut y retourner, ce n'est pas des positions idéologiques, ce n'est pas les Verts allemands.
Les réacteurs nucléaires SMR, comme leur nom l'indique, ce sont des réacteurs nucléaires de petite taille et de moindre puissance que des réacteurs classiques. Par exemple, l'EPR de Flamanville produit 1600 MWh d'énergie, alors qu'un mini-réacteur en produit 400 maximum. Ce sont donc de petites sources d'énergie d'appoint qui sont complémentaires des grandes centrales. Leur intérêt, c'est d'abord qu'ils sont rapides à construire, contrairement à des réacteurs nucléaires classiques pour lesquels il faut compter, vous l'avez dit tout à l'heure, plus d'une dizaine d'années. Deuxièmement, ils prennent peu de place, sont facilement transportables par camion ou par bateau et peuvent permettre du coup d'alimenter des zones qui sont isolées, voire même certains quartiers urbains. Et enfin, ils sont moins coûteux. Dans le monde, plus de 70 modèles sont actuellement en train d'être développés. Parmi les plus avancés, la Chine qui investit en ce sens depuis 2010 et qui s'apprête à lancer son premier mini-réacteur cette année, en 2026 donc. Viennent ensuite les Américains, avec cette fois des partenariats tech et nucléaires assez inattendus. Amazon a investi plusieurs millions de dollars ces deux dernières années dans sa propre centrale nucléaire avec mini-réacteur. L'objectif étant d'alimenter ses data centers et continuer à développer l'intelligence artificielle. Et puis Google et Microsoft travaillent également sur des projets similaires. Quant à la France, elle mise, elle, sur deux mini-réacteurs, Calogena et Genie, qui sont censés fournir de la chaleur, pas de l'électricité, à des industries qui sont énergivores, comme la chimie ou l'agroalimentaire, dès 2030. Myrto Tripa.
Solution miracle. Et je propose effectivement qu'on fasse peut-être un peu un sort à une posture un peu miracle qui sert du 100% renouvelable, fasse un sort au passé une fois pour toutes, en rappelant que le 100% renouvelable est complètement irréaliste, qu'en 30 ans de politique énergétique très volontariste en Europe et dans le monde, on n'a progressé sur aucun axe. Peu ou pas en décarbonation, en préservation de l'environnement et des ressources naturelles, sur la dépendance énergétique, sur le prix de l'électricité, sur la résilience et la stabilité des réseaux électriques. Donc on n'a pas fait de progrès. Donc à un moment, on acte que ça ne fonctionne pas, on se tourne vers l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? C'est effectivement des énergies renouvelables, mais mentionnons des énergies renouvelables bas carbone. Et donc là, ça va être de l'hydroélectricité, sur laquelle il va falloir qu'on s'appuie de plus en plus parce qu'elle est pilotable et c'est une clé du réseau, parce que c'est elle qui va permettre stabilité, régulation, optimisation des réseaux électriques. De l'éolien et du solaire, quand on aura des poussées d'électricité parce qu'on va démultiplier la demande autant que possible. Partout où on ne pourra pas faire de nucléaire et ou d'hydré ou pas assez vite, il faudra que nous mettions de l'éolien et du solaire, c'est indispensable. Et finalement, des énergies nucléaires, pas une énergie
avec
nucléaire,
ces petits
avec
réacteurs.
Plusieurs technologies. Ça n'est pas du tout une technologie figée dans le temps. Aujourd'hui, vous avez les grands réacteurs de grande capacité qui sont la colonne vertébrale de tout réseau électrique bas carbone. C'est physiquement, c'est pas une question d'envie, de popularité.
Bon, d'accord.
Physiquement, c'est les seuls. Et tous ces petits réacteurs qui sont des générations successives, qui vont répondre à d'autres besoins, qui aujourd'hui sont occupés par les fossiles et qui, pour certains, sont difficilement électrifiables et qui vont nous permettre de décarboner en profondeur.
De mix énergétique.
Je me sidère parfois, c'est que quand on dit triplement des capacités nucléaires dans le monde d'ici 2050, bah, allons-y, ça choque personne et tout ça. Et quand moi je dis 100% renouvelable, c'est possible, on m'accuse d'avoir une posture militante. Mais c'est vous qui avez une posture militante en disant que c'est irréaliste. Il y a plein de gens qui disent que c'est tout à fait réaliste, faisable, et que et en plus on parle d'un horizon à 2050.
Donc, ça n'a jamais été réalisé à l'échelle d'un village.
Ah mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que ça n'ait pas été réalisé et que ce soit irréaliste. C'est pas du tout la même chose. Moi je pense qu'il faut travailler en ce sens parce que encore une fois, vous parliez des réacteurs bonsaï. Attention à des appellations mignonnes comme ça pour ce qui reste un cœur de réacteur nucléaire. Quoi. C'est pas un réacteur bonsaï. Vous voudrez, vous, dans 10 ou 20 ans, avoir un réacteur bonsaï dans votre immeuble pour alimenter votre quartier en électricité. En plus des petites unités de production d'électricité, on en a. C'est le solaire, c'est le photovoltaïque.
Sauf que c'est aléatoire et qu'il n'y a pas de stockage aujourd'hui.
Mais non, mais si, bien sûr, si vous l'alliez avec du stockage, ça fonctionne. Ça, c'est pas vrai. Il faut arrêter avec cette histoire d'intermittence des renouvelables aussi. On sait varier entre. Si vous me disiez un scénario 100% éolien, bien sûr que c'est irréaliste. Mais un 100% qui repose sur les différentes typologies des énergies renouvelables, ça fonctionne. Avec le stockage qui progresse, bien sûr que ça fonctionne. Et vous allez trouver de plus en plus d'ingénieurs, de gens très sérieux qui travaillent sur les questions énergétiques, qui vont vous dire que c'est tout à fait possible.
Compte depuis les années 2010 fait très régulièrement des rapports sur le coût du nucléaire en intégrant la question du risque et en intégrant la question des déchets et du démantèlement des centrales
et de l'eau, ça montre peut-être et de l'eau
et maintenant il faut intégrer l'eau, vous avez tout
dans
à fait raison.
Donc
ça montre qu'en fait en termes de coût le nucléaire coûte assez cher. C'est vrai qu'on a on a un capital en nucléaire, comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'on a des centrales qu'on peut, comment dire, repower. Je voudrais insister sur un élément essentiel, c'est la question de la sécurité. On a une autorité de sûreté nucléaire qui est réputée dans le monde entier. Et moi, je lis les rapports de l'autorité de sûreté nucléaire, le soir, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a consacré tout un chapitre à la question des SMR en disant ce qui est inquiétant sur ce sujet, c'est que les projets fleurissent, mais ce ne sont pas des acteurs habitués aux pratiques de sécurité d'EDF.
Des partenaires.
Et donc, il y a un enjeu sur les questions de sécurité, et il va falloir, elle dit, recruter en fait tout un service sur la question des SMR, si on en a, parce que c'est des enjeux de sécurité très différents de ceux des EPR, donc des grosses centrales nucléaires et des réacteurs. Donc, il y a un enjeu de sécurité important, et la dissémination du nucléaire, ça a toujours été un sujet. Je crois qu'il faut là-dessus quand même être clair. C'est là encore, vous le disiez, c'est pas de la pensée magique, mais encore moins les SMR. C'est pas parce que c'est petit que c'est magique.
Ce que je regrette dans ce qui a été une décision populiste de la part de Angela Merkel en 2011, qui a suivi une désinformation massive, qui a associé les morts d'une catastrophe naturelle historique majeure à l'échelle de l'humanité, qui a été un tremblement de terre et un tsunami au Japon, avec un accident de centrale nucléaire qui n'a pas fait de mort. Donc on a un accident qui n'a pas fait de mort, qui conduit à la mise à l'arrêt.
Fukushima évoque 2300 morts autour de Fukushima.
Non, d'évacuation, d'évacuer, qui, et c'était les résultats et les conséquences de l'évacuation de la
peur. Sur l'uranium, mais sur l'uranium.
Absolument pas de l'accident lui-même. Non, mais c'est important.
C'est
important.
C'est les morts de Fukushima.
Non. Attendez.
Sur l'uranium de Tripathie.
C'est important parce que aujourd'hui on a fait ces choix-là et on s'est rendu compte que le bilan de tenter du technosolutionnisme ne fonctionne pas, y compris sur des questions de souveraineté,
sur l'uranium,
d'indépendance énergétique. Et aujourd'hui, en France, les gens comprennent que quand vous dépensez de l'argent sur le nucléaire, en fait, vous investissez sur vous-même. En France, on investit sur nous-mêmes quand on fait des dépenses en nucléaire, dans nos
compétences. Sauf qu'on n'a pas de mine d'uranium, voilà la question. Et que 40%
du l'uranium
est en Russie.
On va fermer le cycle en 2100. On l'aurait fermé bien avant si on n'avait pas fermé Superphénix il y a 40 ans, et puis ensuite, il y a 30 ans, bon. Et puis ensuite Astrid, on est capable de recycler quasiment intégralement le combustible et de faire du nucléaire une énergie circulaire. On s'est recyclé l'uranium, on a mille solutions.
Nous n'avons plus de temps.
Pour ne pas avoir s'inquiéter de cette problématique qui en réalité n'en est pas une.